Surpris par la nuit. Après l'avant-garde. Les avant-gardes, âge d'or de notre histoire, mais aussi contemporaines des temps modernes, de la terreur, des totalitarismes. Elles naissent avec la Révolution française et participent des révolutions, des mouvements politiques qui changèrent la face du monde. Elles signent les bouleversements esthétiques les plus radicaux que l'on ait jamais connus. La disparition de l'avant-garde laisse place à la médiatisation planétaire, au simulacre, à l'information en temps réel. Les phénomènes extrêmes de notre postmodernité enclenchent de nouvelles écritures. Elles décrivent des mythologies, des épopées désormais mondiales. Le nihilisme se pose comme la question dominante, le fondement révélé, devenu sans réplique de notre temps. Le dadaïsme, le surréalisme, le futurisme russe, les situationnistes, toutes les promesses révolutionnaires des avant-gardes s'éloignent après avoir culminé avec mai 68. L'international situationniste se dissout en 1972. Le groupe tel quel, qui a compté dans ses rangs Philippe Solers ou Denis Roche, s'arrête aux abords des années 80. Le temps des manifestes s'efface, la pensée critique se déplace vers d'autres médiums, la poésie devient sonore, action, performance, ou forme métaphysique de soulèvement du langage. 11 septembre, post-fiction, avant-garde, suite et fin, en attendant l'événement.
I just heard a loud boom. You did? Was it a plane? That's what I was thinking. It was a terrorist attack. Bob said he heard it sounded like a rocket.
I heard a plane. It seemed like a plane went over.
Yeah?
And then I had the boom and I looked up and there was the thing exploding from the outside. Exploding to the outside. The whole... It looked like a...
Your mom said there was a plane driving over, flying over.
I heard
the
noise of a plane.
Oh, she heard the noise of a plane, and then a boom.
Yeah, just like a bomb.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
Dans ma courte carrière d'écrivain, c'est le moment le plus incroyable et celui que j'attendais, que je subodorais, quoi. Enfin, voilà. Moi, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Don DeLillo, par exemple, parce que lui, voilà, il a dit ça il y a 20 ans, des choses sur le terrorisme déjà. Et moi, c'était même une boucle qui se bouclait, qui était plus ancienne que ça, puisque ce qui m'a vraiment...
Patrick Bouvet.
J'avais depuis très longtemps envie d'écrire, et puis je le faisais pas vraiment, ou je le faisais, mais ça fonctionnait pas, alors je m'arrêtais. Mais ce qui a vraiment déclenché en moi l'envie d'écrire, c'est en 91, la première guerre du Golfe. Là, je me dis, ça y est, on bascule au 21e siècle. Si tant est que les choses, c'était le 20e s'arrêtait en 89 avec la chute du mur de Berlin. Et puis 91, le jeu vidéo géant des Américains, où on voit cette guerre virtuelle qui commence à se mettre en place, ce dont avaient parlé plein de gens, Baudrillard, Virilio, enfin bon, que j'avais lu un peu dans les années 80. D'un seul coup, boum, je vois ça. Et là, j'étais dans le même état d'ailleurs le 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'au moment de la première guerre du Golfe, j'étais debout devant ma télévision. C'était quelque chose d'assez fort. Et là, je me suis dit, je sais pourquoi j'écris. Là, c'est parti. On n'était qu'en 91. Mon premier bouquin s'est écrit en 97-98, enfin in situ. Il y a eu des tentatives avant. Donc il y a quand même eu aussi du travail et un vrai questionnement, comment arriver par la forme à plonger là-dedans vraiment. Alors, il n'était pas question pour moi de faire un essai sur ce genre de questions. L'idée était plutôt pour moi d'arriver à plonger là-dedans et d'être au plus près de ces questions-là, pratiquement d'une manière physique.
On revoit le moment où le deuxième avion arrive sur les chaînes de télévision, le moment où un Boeing 767 arrive sur le territoire de l'image. Un Boeing 767 pétrifié dans le ciel américain, une image bourrée de carburant. Nous sommes là, sur le territoire de l'image. Nous sommes ralentis, nous sommes détournés. Nous sommes devant une télévision bourrée d'avions, une télévision terroriste.
Yes, yes, right in the middle of the building. And right
now, the World Trade Center n'existe plus, mais on va vous remontrer le World Trade Center.
You saw a plane?
Yes, I just saw a plane go into the building.
En quelques minutes, un épais nuage de poussière recouvre tout, hagard, pétrifié, les passants fuient vers le nord.
Direct, Patrick Bouvet.
New York 2001, Poésie au galop, j'ai commencé à l'écrire ce livre quand les Américains ont commencé donc à faire la guerre en Afghanistan.
Christophe Fiat.
C'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était vraiment grave le 11 septembre. Voilà, jusqu'à l'événement, bon, j'ai été effectivement très, très touché, enfin on peut dire aussi traumatisé sur le coup, parce que bon, c'était quelque chose d'assez imprévisible, enfin c'était même de totalement impossible. Mais jusque-là, bon, après coup, je me suis dit, voilà, c'est quand même dans l'ordre des choses, d'une certaine manière. Mais après, quand les Américains sont intervenus donc en Afghanistan, c'est là que je me suis dit que c'était vraiment grave et qu'il fallait écrire là-dessus. Parce qu'il y avait vraiment un lien entre ce qui s'était passé et tout un système de contrôle qui allait être mis en place, de police, tout un système militaire qui allait être mis en place.
C'est-à-dire que tu avais enregistré à ce moment-là, au fond, l'idée de guerre juste, d'état d'exception, de biométrie, en fait, et donc un changement du rapport même à l'humain, enfin au biopolitique, au vivant, en fait, que la déflagration de cet événement allait amener ce qu'on connaît aujourd'hui, d'ailleurs.
Ouais. Mais c'est ça que je développe dans le livre, d'ailleurs, hein, New York 2001, Poésie au galop. Il y a une partie consacrée aux attentats du 11 septembre, et une autre partie, c'est vraiment deux parties égales, consacrée à la guerre en Afghanistan. Ouais. Pour moi, c'est indissociable. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé. Enfin bon, ceci dit, c'était déjà évident à l'époque, mais ça s'est confirmé avec le Patriot Act qui a été lancé là, aux États-Unis. Par contre, ce qui me semble assez curieux et étrange concernant la position des Français, puisque tu évoquais ça en disant qu'on a été peut-être très rapide à écrire là-dessus, mais en même temps, on est assez lent à voir les choses là où elles nous touchent en France. J'ai découvert par hasard, à l'occasion de l'écriture de mon dernier livre, La reconstitution historique, une aventure de Louise Moore, j'ai découvert par hasard que la cellule de crise de renseignement français qui s'occupait d'Al-Qaïda, en fait, s'appelle Alliance Base. Et Alliance Base, c'est la traduction littérale du terme Al-Qaïda. Et effectivement, autant les Américains, quand ils parlent du 11 septembre et du Patriot Act, autant j'ai l'impression dans leur littérature, mais aussi dans les livres de philosophie, j'ai l'impression que toute la question du renseignement, c'est une question qu'ils épluchent avec le rôle de la CIA, du FBI. Mais nous, par contre, les Français, on s'arrête littéralement à la mythologie de l'événement.
Do you love me? I love you forever. Do you love me? I love you forever. 2001, dans l'America Under Attack, Oliver qui est riche dit à Jenny qui est pauvre que cette colonne de fumée qui vient du sud est une idée du bombardement d'une métropole internationale et que dans les Twin Towers du World Trade Center c'est la panique parce que dans les étages du World Trade Center qui n'ont pas été détruits par les avions kamikazes, des milliers de New-Yorkais qui sont brûlés de la tête aux pieds évacuent les étages dans l'obscurité, dans les bris de verre et dans les fuites d'eau du World Trade Center, comme dans un film catastrophe d'Hollywood.
Et on peut dire que le 11 septembre, c'est, si on veut, le commencement de la 4e guerre mondiale. La 1ère guerre mondiale, on sait ce que c'est, la 2ème aussi, la 3ème c'est la guerre froide. La 4ème guerre mondiale est une guerre sans front. Et il se passe des choses, ça provoque une espèce de stupeur, et au fond, personne n'a les moyens de comprendre réellement de quoi il retourne. Ça crée un paysage comme ça, extrêmement confus, largement falsifié.
François Méronis.
Et où en même temps, l'agencement fonctionne. C'est-à-dire que l'agencement fonctionne sur un fond de catastrophe. Et on passe à chaque fois des seuils dans la catastrophe. Donc la peur monte, et en même temps, ça n'a aucun effet. C'est-à-dire qu'on a construit, par exemple, un ennemi. Bon, par exemple, Staline, c'était quelqu'un qu'on pouvait identifier. Il logeait au Kremlin, ses successeurs d'eux-mêmes. On a créé un adversaire planétaire dont le fait qu'il soit vivant ou mort n'a aucune importance. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne sait si Ben Laden est vivant ou pas, mais il est quand même l'adversaire numéro un à l'échelle planétaire. C'est ça qui est nouveau et qu'il faudrait penser. Hein ? C'est-à-dire que l'ennemi du système planétaire, au fond, lui ressemble. C'est un spectre. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, la question du négatif se pose à nouveau frais.
Vendredi 8 janvier 1999, événement numéro 1.
Anne-James Chaton.
Washington, un paquet de cigarettes, cigarettes 25 litres, cigarettes Chesterfield, US Trend Mark, original, since 1912, American, Blade, Made Under, Authority of Canadian, of Philip Morris, Product, N.C. Richmond.
Washington, dérail en Irak.
On a éliminé l'absence. Bon. Or, les choses n'existent jamais dans cette identité totale, cette présence à elle-même. Elles sont en même temps présentes et absentes à elle-même. Bon, le monde aussi, pris dans sa radicalité, il est à la fois présent et absent. Donc, étant donné que la présence est dominante,
Jean Baudrillard,
le rôle de l'image à ce moment-là, c'est plutôt d'aller vers l'absence, c'est-à-dire de donner, pas de témoigner, mais enfin de rendre compte un peu de cette absence qu'on oublie en général au profit de la pure présence. Quoi. Donc, l'ambivalence du monde, comme ça, l'ambivalence des objets, c'est ça qu'essaierait de rendre, compte le langage, mais enfin, on peut essayer aussi. Voilà, on a lutté contre une espèce de présence exagérée, de présence extravagante du monde.
It looked like it was moving slowly, and it lined itself up to hit the building directly.
The doorman goes to me, wow, I never seen a plane flying so low.
Je tombe un peu par hasard, comme ça, sur ce titre de Léo Mallet, Gerbe comme cadavre, et je me dis que c'est assez fantastique, puisque devant ma télé, ce jour-là, il se passe le 11 septembre,
Sylvain Courtou,
les tours qui s'affaissent, et à partir de là, à partir de Gerbe comme cadavre, j'écris Gerbe comme cadavre, virgule noire, les corps changent d'intensité. Début du jeu de la guerre, c'est une guerre d'extermination, cellule par cellule, cellule pour cellule, à travers les corps noirs de leurs écrans.
La révolution doit être une école de pensée sans entrave, dit-elle. La révolution doit être une école de pensée sans entrave. La révolution, à force d'être proclamée, est devenue une espèce d'alibi esthétique généralisé. Toute forme précise est un assassinat, vous le savez, nous le savons tous. Toute forme précise est un assassinat, vous le savez, nous le savons tous. Toute mise en forme implique une mise en norme. Vous le savez tous, nous le savons tous. Ce qu'il faut, c'est des résultats. Toute forme précise est un assassinat, on n'aura jamais fini de le répéter, dit-elle. Ce qu'il faut, c'est des résultats. On n'aura jamais fini, dit-elle. Ça commence toujours comme ça. Commence toujours de la même unique manière. aussi désespérante que dégueulasse. On n'aura jamais fini, dit-elle, ça commence toujours comme ça. Telles sont les choses à dire quand le langage dément les organes. Début du jeu de la guerre, course précipitée vers la langue qui tue.
Donc voilà, j'ai pris l'Omalley comme prétexte pour commencer à écrire un texte sur le nihilisme de ce qui se passait maintenant, ici et maintenant, devant mon téléviseur, hein, un mardi à 9h et quelques. Et je voyais ça et c'était terrible. Et je me suis dit, je vais faire le livre du nihilisme, mais un livre, non seulement le contenu sera le nihilisme, mais la forme même de ce livre sera le nihilisme. C'est-à-dire, on va arriver à un livre où il y aura la fin de l'art, quoi, voilà.
Et donc, j'entame cette trilogie sur l'image.
Patrick Bouvet.
Pour moi. C'est-à-dire que le premier in situ, c'est la vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'on fait de cette technologie qui nous permet aujourd'hui d'avoir à la fois de la vidéosurveillance, mais aussi de filmer tous les manifestants aujourd'hui filment avec des mini-DV ce qui se passe. Donc à la fois, c'est une arme, et puis évidemment, c'est quand même quelque chose dans lequel on est visé tous. Donc cette question-là, évidemment, elle était pour moi prégnante. Depuis ces images de 91, vraiment, où j'avais aussi ce choc de voir ce jeu vidéo, qui était une vraie guerre, en fait, derrière. Ensuite, shot, bon, comment on nous raconte l'histoire avec une photo et une légende, en gros. Et j'avais prévu le troisième sur la télévision, mais la télévision aussi comme boîte à son, vraiment quelque chose qui n'arrête pas de parler et qui est comme un membre de la famille, quoi, pratiquement. Et j'étais dans la rédaction de ce livre-là quand le 11 septembre arrive. Et un copain m'appelle, j'avais pas allumé ma télé, un copain m'appelle le jour même, mais vraiment dans l'après-midi, et me dit « allume ta télé ». D'ailleurs, je lui dédie le livre. Et là, je me remets debout, et la première guerre du Golfe me revient en mémoire. Pas tant parce que je fais déjà un travail comme ça, de lien, de cause à effet, mais parce que je me remets debout aussi, et je me dis « merde, je suis exactement dans le même état de fébrilité ». Et je suis resté toute la journée devant la télé. La nuit, j'ai regardé aussi M6 qui diffusait CNN en traduction simultanée. Et là, vraiment, il se passe quelque chose. Je suis rattrapé par mon travail. Mais il n'est pas question pour moi de faire quelque chose sur le 11 septembre, le jour même, parce que je suis happé comme tout le monde. Après, il a fallu du temps, encore un peu. Pas tant que ça, parce que, en fait, évidemment, en reprenant mon travail quelques semaines plus tard, il m'a fallu du temps pour recommencer à travailler. Et je reprends mon travail sur ce que j'ai pu voler à la télévision, ce que j'ai pu emprunter en enregistrant des choses. J'ai plein de cassettes vidéo, de tout ce qui arrive, de tout le flux télévisuel. Et là, je me dis, je sens bien que derrière, ça gronde, quoi. C'est le 11 septembre, comme événement télévisuel aussi. Il est là, quoi. Donc là, j'abandonne ce que j'ai déjà commencé à faire pour ce troisième volet. Et puis je me dis, je vais faire quelque chose sur le 11 septembre. C'est très casse-gueule. Mais je ne peux pas ne pas faire quelque chose. Et je dois faire quelque chose dans l'urgence, je dois faire quelque chose rapidement. Je ne dois pas laisser le temps à la réflexion. Parce que, évidemment, je savais que j'allais lire beaucoup de choses sur l'an septembre ensuite. La déferlante, allait, pour le meilleur et pour le pire, allait arriver. Et là, je commence à me dire, il faut que j'écrive avec... Parce que j'ai enregistré. Le jour même, puisque je n'arrêtais pas depuis plusieurs semaines, je mettais des cassettes vidéo dans mon magnétoscope et j'enregistrais tout. Et là, je l'ai fait, mais en ne pensant pas une seconde que j'allais, au moins à un niveau conscient en tout cas, que j'allais utiliser ça, mais il fallait que j'enregistre ça, quoi. Et puis, assez rapidement, au bout de quelques semaines, où je me dis je vais travailler, je me suis dit, voilà, je vais revisionner toutes ces cassettes. Et c'est marrant, c'est que c'est hyper direct, là.
Mais qui sait ce que nous sommes réellement devenus ? Il semblerait qu'on soit à l'intérieur de quelque chose. Je n'ai aucune idée de la nature de cette chose. J'essaie seulement de raconter ce que je sais. Je voulais que tu saches la vérité. C'est mon rôle d'annoncer les mauvaises nouvelles. Le problème... c'est qu'on ne sait pas à quoi on s'expose. On ne sait pas combien de gens sont impliqués là-dedans.
Au fond, le diable est devenu majoritaire. Et quand le diable est devenu majoritaire, il n'y a plus d'avant-garde possible au sens traditionnel. L'avant-garde, d'une certaine manière, ou alors elle n'est rien, c'est le parti du diable.
Donc le traduit négatif serait renversé, en fait.
C'est même au-delà du renversement, c'est autre chose. On n'est plus dans cette logique de renversement. Le faux, nous sommes au point où justement le faux est devenu sans réplique. Quand le faux est devenu sans réplique...
François Méronis et Yannick Haenel...
On ne peut pas le dialectiser.
Fondateur de la revue Ligne de risque.
Donc il faut changer de registre. On n'est plus, même plus dans une logique de renversement. On est plutôt dans une logique de saut hors de. Alors par exemple, notre choix dès le départ, ça a été de nous intéresser au vide, au néant. C'est-à-dire que dans le mot nihilisme, il y a le mot nihil. Hein? Et le mot nihil a toujours été envisagé par l'avant-garde traditionnellement, par les avant-gardes historiques essentiellement, en rapport avec la destruction, en rapport donc avec la négation. Alors, de notre point de vue, il faut prendre les choses beaucoup plus en amont. C'est-à-dire qu'en amont du ne pas, en amont de la négation, qui reste une détermination logique, il y a l'expérience du vide, justement. Et là, du coup, les choses s'élargissent, comme dirait Yannick. Il y a une nouvelle possibilité qui s'offre à nous. Au cœur même de la destruction, il y a quelque chose comme l'ouverture vers un calme possible.
When you're sitting on the line in the middle of the floor, there's something uncontrollable. You sit there watching the door come to me.
Retour sur les avant-gardes, leur passion du réel, de la politique. Philippe Solers avec H et Nombre, Denis Roche et Louve Basse, l'usage du magnétophone, le brassage de toute la littérature, leur revue telle quelle, influence majeure de la post-poésie.
Je dirais d'abord, j'ai voulu faire un travail très pédagogique, hein, expliquer aux jeunes générations, je pensais surtout à elles, ce qu'avait pu être notre parcours qui était très mal compris, nos engagements.
Jacques Henry.
Et puis j'avais aussi l'intention d'expliquer un peu cette articulation mal comprise entre ce qui était un groupe d'avant-garde et puis un parti qui, aux yeux de beaucoup, représentait encore quelque chose de très archaïque. Donc je voulais m'expliquer sur cette situation-là. Il y a eu aussi nos engagements maoïstes. La chose qui me frappait quand même dès le début, en interrogeant justement des gens autour de moi, c'était la méconnaissance de ce qu'avait été l'histoire. C'est-à-dire qu'on nous jugeait en général à partir de nos engagements idéologiques, philosophiques, sans tenir compte de ce qu'était l'histoire à l'époque. Et l'histoire à l'époque, c'était l'après-guerre, c'était les effets à retardement, mais qui se poursuivent, je dirais presque jusqu'à aujourd'hui, de ce qu'a été le régime de Vichy. Mon livre est quand même tout un parcours de mémoire. Et puis aussi nos engagements littéraires aussi, qui, je crois, étaient... mal compris parce qu'on nous accusait bizarrement de formalisme, alors que tous, je parle de moi, mais je parle aussi de mes amis proches, des amis de tels quels, étions passionnés par la politique. Et si on relit ce que j'ai essayé de faire quand même nos livres dits avant-gardistes, on se rend compte que déjà l'histoire nous préoccupait beaucoup. Pour mon cas personnel, dans un livre comme Carousel, par exemple, qui était paru dans la collection telle quelle, l'histoire était constamment présente. Il y a des pages entières sur la Shoah, sur la guerre de 14-18, sur la terreur révolutionnaire. Et alors, c'est très curieux d'entendre des critiques qui nous étaient hostiles dire « Ah oui, mais cette espèce de formalisme-là... » Donc j'ai voulu, dans ce livre politique, un petit peu remettre les choses dans leur perspective.
Denis Roche, quelqu'un a dit ceci, « L'avant-garde, en 1976, c'est un roman de 240 pages qui s'appelle Louve Basse. » Et la personne qui a dit ça, c'est vous.
Oui. J'allais corriger au cas où vous ne l'auriez pas dit. Mmh. Oui, parce que je le pense profondément, d'abord. Qu'ensuite, je ne vois pas pourquoi, quand des gens pensent ce genre de choses, ils ne le diraient pas tout net. C'est curieux, personne ne se réclame jamais de l'arrière-garde.
C'est vrai.
Or, 99% des gens qui écrivent sont d'arrière-garde.
Plaf,
c'est sûr. Et d'autre part, il a suffi que j'utilise cette phrase pour que un certain nombre d'amis qui sont des gens d'avant-garde me disent « Comment oses-tu utiliser une métaphore militaire ? C'est inadmissible d'utiliser l'expression « avant-garde ». » À quoi je réponds ipso facto, mais nous sommes en guerre contre les autres écrivains qui sont eux-mêmes en guerre contre nous. Et nous sommes en guerre à l'intérieur d'un certain type de discours qui se tient contre d'autres discours, lesquels englobent le premier, etc. Donc, je veux dire, c'est vraiment une métaphore militaire que je revendique totalement et délibérément.
Effectivement, nous n'avons jamais été encombrés par la mythologie des avant-gardes. C'était pour nous une évidence depuis le départ. C'est-à-dire que quand on a commencé à naître à la pensée, les avant-gardes avaient déjà disparu de manière évidente. Et ce qui pouvait en surnager relevait de du reliquat. Et l'idée de perpétuer ce genre de tradition, c'est-à-dire que paradoxalement, l'avant-garde était en train de devenir une tradition, ne nous est jamais venu à l'esprit, en fait. Ce que nous souhaitions, au contraire, c'était de résister au calibrage en mouvement, en cours. C'est-à-dire, effectivement, nous voyons arriver à ce moment-là, c'est une prise de pouvoir générationnelle, des gens qui apparaissent d'une certaine manière comme radicaux par rapport à la culture légitime et qui, en même temps, sont totalement normés, c'est-à-dire essentiellement Michel Houellebecq, etc. Ils opèrent dans le champ du produit et, en même temps, avec une espèce de violence, une espèce de radicalité à leur façon, qui renvoie très vite, disons, les postures avant-gardistes d'éthique. Donc il fallait que nous trouvions, à travers une revue, l'accès à une parole qui a une intégrité, qui a une force, qui puisse recroiser pensée et poésie. Et là, effectivement, nous reprenions, disons, l'ancrage des avant-gardes, mais sur une toute autre base. Par exemple, le concept même d'avant-garde n'a de sens qu'à l'intérieur de la pensée des temps modernes. C'est-à-dire que, disons, à la limite, les avant-gardes surgissent au moment où les temps modernes, c'est-à-dire en 1916, quand Dada surgit, c'est en même temps Verdun. C'est le moment où les temps modernes sont en train de basculer. Donc, à la fois les avant-gardes, d'une certaine manière, c'est encore plus vrai avant des futuristes, se situent d'une certaine manière à l'avant-garde précisément des temps modernes, et en même temps, ils voudraient faire surgir un monde nouveau à partir de décombres. Aujourd'hui, nous n'avons plus à faire ça. C'est-à-dire que, il y a la fameuse phrase de Kafka qui disait « Nous autres écrivains, nous n'avons pas à nous occuper du positif, de l'affirmation, puisque la société s'en charge, il nous incombe de nous intéresser au négatif. Dans la société planétaire telle que nous pouvons la voir sous nos yeux, le négatif est omniprésent. Donc une posture qui consisterait à en remettre sur la négation serait très vite une posture récupérée et c'est très difficile d'aller plus loin dans ce registre que des gens comme Houellebecq ou même qu'une rockstar. Au fond, aujourd'hui, qui est le plus intégré humainement, c'est une rockstar.
Il capte de mystérieux messages sur son autoradio. Il est le seul à pouvoir éviter une catastrophe. Il doit démasquer le cerveau de la bande. Il remarque un détail étrange sur une des photos. Il se souvient de ce qui s'est passé en 68. Il comprend que son disque dur a été piraté.
Ensuite, vous avez en effet ce 68. Alors là,
il souffre de troubles de la personnalité.
L'appréciation se multiplie, la bouillie commémorative que vous avez en ce moment est absolument mais affligeante, pitoyable, dégoûtante, gluante. Ce qui prouve bien qu'un spectre hante encore l'imaginaire français. Il faut liquider 68, vous dit le président de la République en remuant ses épaules, etc., avec Glucksmann qui applaudit. Bon, tout ça, ça veut dire un ressentiment, en effet, une sorte de haine pour ce qui a pu avoir lieu où
Philippe Solers.
Où, finalement, bien sûr, les grèves, la grève, bien sûr, dans les soucis, bien sûr, les occupations, bien sûr, l'université qui a explosé. première observation, ça a été déclenché dans l'université, c'est-à-dire en contradiction totale avec la théorie marxiste dominante. Alors c'est bien là que ça s'est passé. Pourquoi ? Parce que les filles ne pouvaient pas aller voir les garçons dans les chambres, vous vous rendez compte. Et peut-être que d'ailleurs ça va revenir, les filles n'auront plus d'ailleurs envie d'aller peut-être dans les chambres des filles. Tout est fait d'ailleurs pour dégoûter les deux sexes l'un de l'autre, et c'est en train de marcher. Donc vous avez simplement la radicale peur, négation de ce qui a pu se vivre physiquement, de façon libre, à un moment donné de l'histoire. Moi, croyez-moi, pendant ces nuits-là, je n'ai pas perdu mon temps, et c'est là que j'ai pris beaucoup, beaucoup de notes et beaucoup d'enseignements sur la façon de marcher librement à l'air libre. Eh bien, tout ça m'a suivi, et par conséquent, la façon de vivre est très importante. Comment on vit, comment on parle sa vie, c'est fondamental, et c'est ça qui est toujours, toujours, toujours interdit, plus ou moins réprimé par la société, c'est tout. Donc, moi, j'ai continué à écrire, tout simplement. Et je ne suis pas allé m'établir en usine, je n'ai pas fait du réalisme socialiste, j'ai continué mon enquête approfondie sur la façon réelle dont les gens vivent et dont ils se mentent leur vie. C'est-à-dire, précisément, notamment, sur le plan dit sexuel.
Christy Linusman, alias Tracy Lord, qui est née le 7 mai 68 à Steubenville, dans l'Ohio. Elle est la deuxième fille d'une famille de quatre filles. Parce que le monde est rond.
Je crois qu'on n'est pas du tout dans une littérature d'enquête. Enfin, on voudrait l'être, mais on ne l'est pas.
Christophe Fiat.
On est dans une littérature de processus, de dispositif. Et pour remédier justement au manque d'imagination qu'il y a depuis 68. D'ailleurs, moi, ça fait 10 ans maintenant que je fais des livres, et effectivement, j'ai beaucoup de mal à utiliser le terme d'imaginaire ou d'imagination dans mes livres, que ce soit les livres théoriques, poétiques ou romanesques, ou même dans mes performances. On est sans imaginaire et sans imagination, on a recours qu'à des processus, à des dispositifs, à des installations, à des lignes de fuite, à des procédés. Et là, je crois que de deux choses l'une, ou bien toute cette terminologie, quand même, qui est très connotée scientifiquement, technologiquement, ou bien toute cette terminologie, finalement, cache, masque ce qu'était l'imaginaire avant, ou alors on l'a complètement évacué, laissant l'imagination, bien peut-être, aux hommes politiques, d'une certaine manière. Je crois que l'imagination au pouvoir, entre autres, c'était aussi un slogan en 80 avec Mitterrand et Jack Lang. Donc c'est intéressant de savoir que moi, là où j'en suis, je ne sais pas si je manque d'imagination ou alors si j'en ai pas besoin. Et là-dessus, les penseurs, les écrivains qui pour moi sont rattachés à mes 68 me sont extrêmement précieux.
En 1984, Los Angeles est la capitale mondiale du film X et les actrices capables de faire hurler de plaisir les pornophiles du monde entier touchent des cachets extraordinaires à Los Angeles, qui est la capitale mondiale du film X. Le premier film de Tracy Lord a pour titre Qu'est-ce qui me met en chaleur parce que le monde est rond.
Bon, quelquefois même, si vous voulez, au fond, l'investissement même de l'art dans un geste qui est un geste subversif ne contredit pas l'idée, justement, qu'il y a une espèce de vertu du geste artistique bon, en lui-même. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a eu un moment...
Jacques Rancière.
Qui, justement, ne correspondait pas forcément à, ils ont un certain type d'avant-gardisme, du genre dépassement de l'art dans la vie, sur le mode un petit peu, disons, du futurisme en Russie, par exemple. C'est quelque chose d'assez différent. Bon, il y a des moments où, disons, les artistes, bon, on dit, effectivement, on met au premier plan un travail qui est un travail politique, par conséquent, nos moyens d'expression, on les met au service d'un travail qui est un travail, bon, politique, anticapitaliste, anti-impérialiste, que sais-je, si vous voulez. Ce qui n'est pas la même chose que proclamer, comme à d'autres époques, l'espèce de dissolution de l'art dans la vie. Mais je veux dire que, bon, si vous prenez même bon, le situationnisme, bon, quelqu'un comme Guy Debord, il publie ses œuvres cinématographiques complètes, bon, en 78, d'accord, mais je dirais qu'il y a toujours chez Debord, disons, bon, cette espèce de conscience de soi comme un artiste. Bon, si vous prenez la société du spectacle, que ce soit le livre, que ce soit le film, il y a quand même une espèce de représentation de soi comme, bon, représentant un certain art, bon, qui n'est pas forcément l'art de l'œuvre, mais qu'en tout cas, qui est un art, disons, d'auto-présentation, la façon de présenter comme un style de vie artistique, si vous pensez un petit peu comme ça, bon, l'identification de Guy Debord à des personnages du genre Balthazar Gracian, etc., donc au fond, à toute une espèce de tradition, en quelque sorte, de l'invention d'un style de vie qui distingue un individu.
Et donc, nous avions remis la main sur le secret de diviser ce qui était uni. Ce que nous avions compris, nous ne sommes pas allés le dire à la télévision. Nous n'avons pas aspiré aux subsides de la recherche scientifique ni aux éloges des intellectuels de journaux. Nous avons porté de l'huile là où était le feu.
Ingerum imus nocte et consumimur igni, de Guy Debord.
C'est ainsi que nous nous sommes engagés définitivement dans le parti du diable.
1978.
C'est-à-dire de ce mal historique qui mènent à leur destruction les conditions existantes, dans le mauvais côté qui fait l'histoire en ruinant toute satisfaction établie.
Il faut être conscient de ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'action. Si on n'en voit qu'un, et toujours le même, c'est de la mauvaise stratégie. Debord était un très grand général, qui a réussi dans son échec même, mais qui avait en effet un objectif qui peut être considéré comme monomaniaque, c'est-à-dire tout ou rien. Alors, le tout ou rien, vous finissez en tout ou du rien, puisque le système est absolument capable de récupérer ça. C'est-à-dire les œuvres complètes qui sont aujourd'hui trouvables en quarto chez Gallimard. C'est-à-dire, c'est tout. C'est-à-dire une récupération tout à fait logique, et qui d'ailleurs est souhaitable, était souhaitable. Donc, le système est assez puissant pour récupérer n'importe qui, n'importe quoi. Demain, vous avez chez Sotheby's une vente du manifeste du surréalisme, la vente de tableaux, etc., etc. Bon, ne pas se rendre compte de ça, c'est vraiment vouloir rester, encore une fois, dans une sorte de confiture morale. Alors, bon, là, ça dépend à quel moment quelqu'un lâche du lait, etc. Mais j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, peut-être, après tout, parce que je vois ce qui se passe. Je pense qu'il faut devenir objectivement beaucoup plus chinois.
Soleil, voix, lumière, écho des lumières. Soleil, cœur, lumière, rouleau des lumières. Moi, dessous, dessous, maintenant. Toujours plus dessous, par-dessous. Toujours plus dérobé, plus caché, de plus en plus replié, discret, sans cesse en train d'écouter, de s'en aller, de couler, de tourner,
Paradis,
monter.
Paradis, de Philippe Solers, 1982.
Soleil, cœur, point, cœur, point de cœur passant par le cœur. Il va falloir rester réveillé, maintenant, absolument réveillé, volonté rentrée, répétée. Le temps de quitter ce cœur, simplement le temps qu'il se mette enfin, comme il voudra, quand il voudra.
Je vais vous proposer de feuilleter le numéro 101, 102, double de l'infini. Cette revue existe très exactement au début 1983, au moment où je publie mon roman Femme, etc. On quitte le seuil, c'est fini, on fait 200 mètres, on atterrit chez Gallimard. Bon, prenez cette revue, 101, 102 numéros. Ça fait 25 ans que ça dure, c'est la lettre volée d'Edgar Poe, tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Or, comme elle sort régulièrement tous les 3 mois, avec elle, et là vous avez l'index général de tous les auteurs publiés, comment se fait-il que ce soit passé autant sous silence? C'est un travail considérable.
Vous avez fait la même remarque à propos de Telquel, puisque vous avez dit Telquel n'est pas passé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les avancées qui ont duré quand même une vingtaine d'années ne sont pas passées. Et il semble qu'avec l'infini se reproduise, au fond, cette espèce de même refoulement.
telle qu'elle a eu une influence beaucoup plus considérable parce que ça agit dans l'université, etc., avec des alliances qui étaient peu pensables avant, c'est-à-dire aussi, bon, les grands noms, Derrida, Lacan, Barthes, même Foucault qui était là au début. Etc. Non, je crois que là, encore une fois, il y a eu un tournant. Et que si on avait voulu continuer tel quel, c'était fini. Quand c'est fini, il faut dissoudre et passer à autre chose. C'est-à-dire à la même chose, mais sous une autre forme et avec d'autres atouts. Encore une fois, je vous dis, la censure sur l'infini, c'est quelque chose de prodigieux, le nombre d'auteurs publiés. L'histoire de la littérature, de la poésie, etc., qui sont recueillis notamment dans des essais comme La guerre du goût, Éloge de l'infini, etc. Mais tout simplement, la revue elle-même, c'est quelque chose que le milieu dit médiatique passe totalement sous silence. Alors, vous voyez comme c'est beau, d'une certaine façon, d'être ici, de faire cette revue tous les trois mois, qui sort impeccablement, sans aucun problème, et qui a une influence certaine, et qui de temps en temps, dans le cas de Jean-Jacques Schul, produit la stupeur générale en obtenant le prix Goncourt, alors que le livre avait été tiré à 4000 exemplaires et n'avait aucune chance de réussir. Donc, hop, tout à coup, ça sort, puis ça retombe. Ou alors les numéros importants, c'est le mouvement démocratique en Chine en 1989, c'est après ça il y a un numéro pratiquement spécial sur Céline, après ça il y a un numéro spécial sur Heidegger, etc. Le travail est considérable. C'est comme si ça n'existait pas. Donc le cirque médiatique lui-même, s'enroulant sur lui-même, en spirale de négativité qui va vers le vide, se précipitant vers le néant qui le constitue, et la démonstration, c'est d'être là et d'être absolument impassible et de publier un grand nombre de livres, un grand nombre de numéros de revues. Et puis c'est tout.
Dans le monde, il y a une sénatrice, un adversaire, une rivale, un expert, un ancien président, des démocrates texans, reporters, des patrons de la métallurgie, des leaders islamistes, des dirigeants, un portugais, un chef de file, un délégué général, un bouc émissaire, un professeur d'art appliqué, un agresseur, un militant, des jeunes du quartier, un acteur de l'ombre.
Pour moi, le texte narxien est indissociable de ce que j'ai pu fabriquer ailleurs. Et notamment, ça rentre en discussion avec le fabricateur de revues que j'ai été. Je ne suis plus pour l'instant, mais en tout cas que j'ai été. C'est-à-dire à la fois dans la mesure où...
Anne-James Chaton.
La grande histoire de toutes les grandes revues d'avant-garde est extrêmement liée à ce que la fin du 19e et le 20e a pu écrire ou travailler autour de Marx. Donc pour moi, les choses n'ont jamais été dissociées entre à la fois une lecture du jeu de Marx, la lecture que j'ai pu avoir des grands courants d'avant-garde, notamment je pense aux futuristes russes qui ont été pour moi assez importants sur ces questions-là, et puis la manière dont ces revues se sont fabriquées et dont à un certain moment, ou telle qu'elle, la façon dont cette corrélation, en quelque sorte, a joué dans un mouvement continu jusqu'à la fin de telle quelle TXT. Et ensuite, comment, tout en conservant ces constituants, qui sont à la fois donc, cette histoire de littéraire et revuiste dans laquelle je m'inscrivais, et puis ces lectures marxistes, comment, à un moment donné, à la fois en tant que revuiste et en tant que chercheur, entre guillemets, sur ces questions, je pouvais faire travailler différemment les choses ensemble.
Dans le monde, il y a aussi de nombreux enfants, 300 blessés, des combattants kurdes, une cinquantaine d'opposants, une dizaine de partisans et des milliers de manifestants, 126 délégués, 3 kinésithérapeutes, 70 palestiniens.
Après, j'ai été beaucoup marqué par Louvbass, par exemple, et par les Antéfix de Roche. Louvbass, certainement un des plus grands romans français des 25 dernières années.
C'est la première fois que j'ai écrit vraiment un morceau de prose, disons, romanesque, éventuellement romanesque, que j'ai publié dans un journal d'ailleurs.
Denis Roche.
Je l'ai intitulé Louvbass.
1976.
Simplement parce que je trouvais l'association des deux mots ouvrant peut-être sur des combinaisons après qui pouvaient être fructueuses. Simplement pour ça. Et c'est très longtemps après que je me suis rendu compte de tout ce que ça pouvait suggérer et avant tout l'ouvre bas, c'est-à-dire essaye donc de l'ouvrir un peu bas, la bouche.
Ah bon, alors
je lisais comme ça, enfin, ah bon. l'ouvre bas, c'est-à-dire l'ouvrir bas, c'est-à-dire un écrivain se met à parler avec la bassesse maxima. Et encore beaucoup plus longtemps après ça, tout à fait par hasard, un jour quelqu'un m'a signalé que l'ouvre basse se trouvait dans un vers de Pierre-Jean Jouve, ce qui m'a fait un peu sauter au plafond. Je me suis dit, c'est pas possible d'essayer aussi désespérément d'échapper à la poésie et d'y retomber comme ça, comme dans une mare au canard. Et en fait, le poème de Jouve, fort heureusement, est une citation quasiment, enfin le vers en question était une citation quasiment de Dante, ce qui rétablissait quand même un peu la logique des choses. Et la louve qui est dite basse est précisément l'un des trois animaux qui garde l'entrée de l'enfer dans la Divine Comédie.
C'est bien après que j'ai découvert Jean-Jacques Schoule. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis posé la question de qu'est-ce que ça peut être qu'une littérature pop. Moi, je l'ai lu dans les années 2000, enfin au début des années 2000. Donc
Emmanuel Rabu.
Ça a été un grand texte, une grande lecture, mais ça n'a pas été pour moi vraiment une lecture initiatrice ou une lecture qui
séminale, m'a... quoi.
Non, ça n'a pas été une lecture séminale, non.
Et pour le Louvre-Bass, vous connaissiez le fait que c'était passé par le magnétophone?
En partie oui, puisqu'il y a cette note au début de la préface qui dit « Attention, les paf qui jonchent le texte sont les touches du magnétophone et pas autre chose. » Et j'ai été très marqué par cette petite note.
J'ai beaucoup travaillé au magnétophone. Il y a les scènes qui sont enregistrées, les scènes de dialogue, par exemple, sexuelles, qui sont enregistrées directement au magnétophone.
Oui, il y a quelques passages, bon. C'est... Alors, et oui. Ils sont très clairs, ceux-là. Hein.
Tout à fait.
Alors là, vraiment d'une clarté...
Je n'ai rien ajouté, rien enlevé. Oui. Bon, alors ça, c'est, transmis dans le livre absolument tel quel. Et puis, les autres passages les plus écrits, les plus élaborés, sont toujours passés une ou deux fois à travers le magnétophone, et notamment dans la phase finale de l'écriture du livre, où j'ai repris tout le matériau et je l'ai redicté dans le magnétophone, ce qui forcément changeait un certain nombre de choses, ne serait-ce que dans le rythme, la dynamique, la ponctuation, etc. Et après, je l'ai retapé à la machine. Alors les plafs, c'est simplement quand j'enfonçais la touche du magnétophone pour arrêter la bande, plaf. Pour la faire repartir. Plaf. Ce qui donnait l'impression de scander un peu dramatiquement peut-être les choses. Et quand je me prenais au jeu du verbiage philosophique, disons, qui est toujours la tentation face à la mort, on a toujours un peu envie d'échapper à ça par la philosophie, à ce moment-là, plaf. Et quand vous appuyez sur une touche de magnétophone et que vous êtes en plein discours philosophique, croyez-moi, ça vous fait retomber les pieds sur terre très 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 vite.
Ryan Gysing, William Burroughs.
Panique, stupeur, cauchemar.
L'amélioration du magnétophone, la deuxième, une nouvelle génération de magnétophones, parce qu'ils étaient au départ encore à cette époque très simple, ce mono et tout ça.
Bernard Hatzik.
Et puis il y a eu l'arrivée des Revox ou des Akai, mais enfin moi j'ai pris un Revox. C'était complètement neuf. Et ça vous permettait de faire énormément de choses, de superposition, des collages, de ce qu'on veut, enfin, et c'était stéréo. Donc, ça facilitait la mise en place de textes qui étaient destinés à donc être donnés en public, en me superposant sur la bande préenregistrée, comme ça. Et j'ai poursuivi dans cette, comme ça, en faisant, j'ai changé les thèmes, c'était plus pas une partition à partir du moment où j'avais ce magnétophone, j'ai appelé ça biopsie, parce que biopsie, suivant le terme médical, n'est-ce pas, c'est l'analyse d'un tissu humain, là, c'était un tissu social que je prenais, et bon, qu'il s'agissait en quelque sorte d'exorciser.
Le supercolore trifonard et le dépassement du lettrisme. En 1951, Isidore Isou achève le traité de Bâle et d'éternité. La bande-son est constituée d'un cœur lettriste. Isou utilise des photogrammes ciselés. L'image et le son n'ont aucune problématique commune.
Mais il se trouve que quand j'ai découvert Izou, j'étais très très jeune et ça m'a un petit peu paralysé à un moment donné où je pensais vouloir écrire parce qu'il me semblait que la poésie lettriste, même si c'est pas, je connaissais pas les prédécesseurs de la poésie lettriste, mais il me semblait qu'il y avait là un geste poétique qui était indépassable et que
Emmanuel Rabu,
on pouvait pas aller au-delà de tout ça. Et parallèlement, je lisais aussi les textes de Denis Roche et les textes de Denis Roche me tombaient des mains. Et puis à un moment donné, il y a eu un renversement. Et puis, bon, quand j'ai commencé à réfléchir sur qu'est-ce que ça pouvait être que la modernité aujourd'hui, etc., je me suis plus posé la question du dépassement, mais plutôt la question de la réappropriation des techniques. C'est-à-dire de voir que depuis, globalement, bon, Ducasse, enfin, pour moi, pour ma propre généalogie, il y a Ducasse, Mallarmé, etc. Il s'agissait beaucoup plus de réutiliser, de réactualiser un certain nombre de techniques qui ont été mises au point durant tout le XXe siècle et qui étaient à notre disposition pour fabriquer des objets différents, etc.
Un sujet expérimental échappe au contrôle. Un sujet expérimental échappe au contrôle. Un sujet expérimental échappe au contrôle. Une mythologie n'est pas un lieu hermétique. Un sujet expérimental échappe au contrôle. Une mythologie n'est pas un lieu hermétique. Un sujet expérimental échappe au contrôle.
Emmanuel Rabu.
Une mythologie n'est pas un lieu hermétique. Un sujet expérimental échappe au contrôle. Une mythologie n'est pas un lieu hermétique. Un sujet expérimental échappe au contrôle. Une mythologie n'est pas un lieu hermétique. Un sujet expérimental échappe au contrôle.
À avoir commencé à travailler avec un magnétophone sans le connaître. Il y avait donc Dufresne qui était le premier, incontestablement, en 1953. Et puis, moi-même, j'ai commencé, donc, mais sans magnétophone, qu'est-ce que j'ai intitulé des poèmes partitions, par référence à la musique, c'est-à-dire l'œuvre musicale qui existe en tant que partition, mais n'existe réellement qu'une fois qu'elle est jouée. Donc, c'était la même chose. Le poème est sous forme de partition sur le papier, mais il n'existe réellement que quand il est lu à haute voix. Donc c'était ça, l'idée de cette appellation de poème partition. Et puis ensuite, alors moi j'ai acheté un magnétophone en 59, la même année que Henri Chopin, qui lui avait une revue cinquième saison dont il s'occupait, et qui commençait aussi avec un magnétophone à faire des audio-poèmes, et qui rêvait de transformer cette revue pour en faire une revue avec un disque. Et enfin, Brian Gazin, qui était un poète américain et peintre, qui vivait à Paris, et que j'ai découvert en décembre 62, à l'American Center.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Final Academy. I would like to introduce Rumantia Mata, Steve and Tessa, and Brian Gysin, please.
Oh, funny little noises going over these machines.
Very well.
Cut up self-explanatory. Writing is 50 years behind painting. I propose to apply the painter's technique to writing.
Things as simple and immediate as collage or montage. Cut right through the pages of any book or newsprint, lengthwise, for example, and shuffle the columns of text. Put them together at hazard, and read the newly constituted message. Do it for yourself.
En 1934, Brian Geising est exclu du mouvement surréaliste. André Breton lui reproche son homosexualité. Éluard décroche ses dessins de l'exposition du groupe. Brian Geising devient membre de la Beat Generation. Ramucho Mata, fils du peintre surréaliste Roberto Mata, le rejoint en 1976.
Geising pensait que on rejette que ce qui nous attire et que donc Breton devait être très attiré par l'homosexualité, mais il vient d'une génération où c'était difficile à lui à accepter. Et il a été chassé pour ça et peut-être pour d'autres raisons. Parce qu'en fait, malgré tous les défauts que pouvait avoir Breton, il a fait que le mouvement est resté.
Oui, c'est ça. Moral.
Extrêmement moral, extrêmement exigeant. Et en fait, Geising avait un côté extrêmement superficiel qui a pu agacer et qui a agacé tout le monde durant toute sa vie. Parce qu'il avait cette espèce d'aisance à s'approprier n'importe quel médium et d'en faire quelque chose d'exceptionnel. Que ce soit l'informatique avec les permutations, que ce soit l'électronique avec la machine à rêver, que ce soit la musique avec le jazz, avec Steve Lacy, sa vie de 23 ans au Maroc, où il a rencontré la vraie magie traditionnelle marocaine qui venait de la famille Attar, qui venait d'Iran, enfin des choses absolument exceptionnelles. Et je pense qu'en le chassant, Breton a eu raison, parce qu'il lui a permis d'accomplir des choses beaucoup plus intéressantes que s'il était devenu, tout simplement, je ne dis pas ça avec une connotation péjorative, un artiste surréaliste, parce que peut-être qu'il aurait eu du succès, qu'il aurait fait la même chose toute sa vie. Là, il est quand même reparti en Grèce, il s'est marié, il a fait un enfant. Après, il s'est retrouvé en Angleterre, que je parle de Geising, où il écrivait des comédies musicales pour Broadway tout en travaillant sur les quais. Après, juste après la guerre, il va au Japon où il apprend la calligraphie. Enfin, il a une espèce de vie où vraiment, lui aussi, là, il va approprier son destin et de saisir toutes les opportunités et tous les accidents comme des chances à saisir.
En fait, il avait déjà une attitude qu'aujourd'hui, on qualifierait de pop, en fait. C'est-à-dire qu'il peut saisir par n'importe quel bout la culture, en fait. Qu'elle soit populaire, ancienne, moderne, c'est une chose extrêmement moderne en fait, c'est presque un prototype, c'est un être presque expérimental en fait d'une certaine façon.
Vous avez employé tout à l'heure le mot laboratoire, je crois que chacun est son propre laboratoire et lui il a démontré, comme eux tous, hein, que ce soit Brauner, Max Ernst, Man Ray, moi le souvenir que j'ai de tous ces gens et l'empreinte véritable, c'est en fait c'est le travail, c'est-à-dire que tous ces gens-là travaillaient avec une magnifique intensité, pas une quantité. C'est-à-dire qu'ils pouvaient travailler que une heure ou deux heures par jour, mais avec une telle intensité que ça peut correspondre à des mois pour quelqu'un d'autre. Parce que finalement, ce rapport à l'intensité, ce rapport à ce moment de grâce où l'action passe à travers soi, c'est quelque chose qui vient beaucoup de l'alchimie. Et toutes ces choses-là, ils étaient tous très intrigués par cette force obscure et lumineuse à la fois qui nous habite lorsqu'on crée des choses.
But it fell to Mr. Van Arn, the line of duty, to think that a million men were fitted into the ground in their slots. The findings of Mr. Van Arn's uniform in their slots seemed so absurd in Flanders, where he served in the sky like a comet and crashed. For the first time in history, a woman presided over the lower house.
Là où elle m'intéresse, la culture américaine, c'est qu'elle est anthropologique. Tandis que la culture française, elle est patrimoniale. À savoir que l'écrivain français est un lettré, alors que l'écrivain américain n'est pas un lettré.
Christophe Fiat.
Ce qui fait d'ailleurs que les mauvais écrivains français sont dans la posture. Je pense que les mauvais écrivains américains, s'il y en a, je ne les connais pas, ça m'étonnerait qu'ils soient dans la posture. Et donc, moi, ça m'intéresse, cette culture anthropologique. De toute façon, moi, la culture patrimoniale, ça m'embête. Mais la culture patrimoniale, c'est ça, c'est la reconnaissance sans cesse répétée des pères. P-E-R-E-S et P-A-I-R-E-S, c'est-à-dire l'idée quand même qu'il faut appartenir à une génération. Donc c'est un mot que j'ai utilisé souvent, mais et surtout est en dette par rapport à la transmission. Si je suis arrivé par la position nord, c'était pour ça. Ce qui m'intéressait, c'est le côté anthropologique de l'art. C'est tout à coup, l'œuvre, elle circulait, elle prenait des formes qui, à un moment, participaient comme ça d'un bricolage. Il y avait quelque chose qui me semblait être en mouvement dans un collectif, mais qui dépassait le collectif. Et là, j'ai eu des moments extrêmement intenses. Alors bon, après, c'est ce qui était appelé l'avant-garde. J'y crois toujours, mais bon, je m'en suis un peu démarqué.
Moi, ce qui m'a intéressé, parce qu'il y a toujours un performeur dans mes livres. Il y a toujours un artiste, il y a toujours des artistes, il y a toujours des gens qui mettent à l'art. Déjà parce que j'étais passionné par le body art. Et puis en réfléchissant vraiment deux secondes, hein, vraiment pas beaucoup, je me suis aperçu quand même que tout ça arrivait dans les années 70. Et qu'en même temps, on avait déjà une première vague de terrorisme spectaculaire.
Patrick Bouvet.
Qui était là, quoi. Et j'en parle dans Shot. Hein. Je fais des... comme ça, je mets en regard les choses. Et y a un film d'ailleurs qui s'appelle Dial History de Grimont-Pré où on voit toutes ces prises d'otages avec les avions, tout ce qui date des années 70, que j'ai vu petit aussi, ça. Don Dolillo en parle. Enfin, bon. Et ce terrorisme qui commence à se mettre en scène, qui là jouait sur les otages, des choses comme ça. Et puis ce body art, notamment chez les Viennois, qui arrive avec une société on ne peut plus verrouiller. C'est pas étonnant quand même que les Viennois déboulent avec des choses extrêmes comme ça et jusqu'à se tuer d'ailleurs pour l'un d'entre eux.
Oui. La base en fait de la performance qui souvent revient dans tes livres, c'est l'automutilation aussi. Gina Payne, mais on pourrait en dire que d'autres, Journiac, Chris Burden.
Oui, je pourrais peut-être faire une parenthèse là-dessus. C'est-à-dire que moi, évidemment, je veux raconter aussi l'histoire. L'histoire, ce qui me passionne, c'est le 20e siècle, mais à partir de sa deuxième moitié. Évidemment, les choses n'apparaissent pas comme ça. On pourrait tirer le fil et aller remonter beaucoup plus loin. Mais ce qui m'intéresse, c'est toute cette deuxième moitié du 20e et aujourd'hui. Et dans mes livres aussi, il y a cette volonté de mettre sur le même plan une action de Chris Burden, Gina Payne, et puis l'assassinat de Kennedy. Parce que les gens connaissent l'assassinat de Kennedy, la plupart ne connaissent pas. À part le petit milieu, bon, les gens ne savent pas qui est Gina Payne, ne savent pas qui est Chris Burden ou Michel Journiac. Et je veux, avec mes modestes moyens aussi, voilà, mettre les choses sur le même plan et dire c'est important. Et c'est pas parce qu'on en a peu parlé que... Voilà. Donc je, à ma modeste mesure, je fais aussi ce travail de ressortir les fantômes aussi tout le temps comme ça.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
Et c'est là où c'est quand même paradoxal, c'est que tout le monde hurle si quelqu'un a une vision esthétique de l'événement, alors que tout le monde vient alimenter cette chose-là. C'est-à-dire que tout le monde vient alimenter l'événement avec une caméra supplémentaire, avec un plan supplémentaire, avec encore un autre point de vue. Ça me faisait penser à ce film de Lars von Trier avec Björk, où il avait plus d'une centaine de caméras de mini-DV pour filmer des plans. C'était un des premiers qui avait fait ça à l'époque. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, mais on prend tout, sur tous les angles, et on va bien, au montage, faire quelque chose avec tout ça. Et d'une certaine manière, les médias se sont retrouvés un peu comme Lars von Trier, avec 100 mini-DV qui ont filmé le truc sous tous les angles, et après, c'est plus qu'une question de montage. Enfin, c'est surtout ça, le cœur du livre.
Hein.
C'est
mort.
Oui. Le livre, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose où j'ai pris que ce que j'ai enregistré le jour même. Parce que dans la journée, si on est assez attentif, on voit comment la télé est prise de court au départ et comment elle relaie des images américaines, un peu d'une manière anarchique. Évidemment, le commentateur fait ce qu'il peut, dit un peu ce qu'il peut. Et puis, déjà, aux 20h, les images sont montées pour les gens qui rentrent du boulot. Et là, les images que j'avais vues, moi, arriver d'une manière chaotique au départ, quelques heures plus tard, sont déjà montées avec un commentaire, avec cette voix un peu... le côté dramatique de la chose, avec une pause. Voici venir l'avion. Voici venir ce deuxième avion. Ils ont même encerclé en rouge l'avion pour qu'on soit sûr de ne pas le louper quand il arrive dans le cadre. Et c'est pour ça que la lecture, par exemple, de direct hein, est une chose assez importante, parce qu'il faut retrouver aussi cette pesanteur.
Quoi qu'on pense de leur qualité esthétique, les Twin Towers étaient une performance absolue et leur destruction est elle-même une performance absolue. Cela ne justifie pourtant pas l'exaltation par Stockhausen du 11 septembre comme de la plus sublime des œuvres d'art. Pourquoi un événement exceptionnel devrait-il être une œuvre d'art ? La récupération esthétique est aussi odieuse que la récupération morale ou politique, surtout quand l'événement n'est si singulier que parce qu'il est précisément au-delà de l'esthétique, comme de la morale. Jean Baudrillard, Power Inferno, Requiem pour les Twin Towers.
Je voulais faire un livre dont le nihilisme soit la forme même du livre. C'est un texte écrit avec une encre très noire, quoi.
Sylvain Courtois.
Le noir de l'acide, hein, si on peut dire, parce que effectivement, c'est un livre expérimentalement très difficile, puisqu'il a fallu lire, il a fallu biopsier, il a fallu cut-upper, il a fallu sampler dans les livres les plus durs de l'histoire, c'est-à-dire les plus abjects, pourtant des romans, mais pas forcément des romans, c'est-à-dire il y a des samples de Mein Kampf peut-être dans ce livre, et effectivement qui sont changés, qui sont pas tels quels évidemment, parce que je me refuserais quand même de citer Mein Kampf dans mon livre. Non, mais je veux dire, il y a des livres très durs comme les livres de Robert Antelme sur l'espèce humaine par exemple, etc. Voilà, ça c'est plus proche de mon propos, c'est-à-dire le nihilisme est le contenu du livre, d'accord, c'est le sujet du livre, mais il est la forme, c'est-à-dire que tout est nihil dans ce livre, tout est palpable, rien palpable. Même le nihilisme est un dogme. Et si le nihilisme est un dogme, pourquoi écrire ce texte ? Et j'ai écrit ce texte parce que le nihilisme est un dogme qu'on peut combattre. Voilà. Moi, j'ai voulu combattre ça. J'ai envie de combattre ce nihilisme-là, qui m'a complètement perverti, quoi. Complètement perverti, quoi.
Toutes les dimensions où on peut opérer spirituellement, littérairement, poétiquement, philosophiquement, sont toujours à double face.
Yannick Enel.
Si je dis que le grand événement au fond du XXe siècle et du XXIe, c'est la disponibilité absolue, j'ai bien conscience qu'en même temps, cette disponibilité absolue, c'est aussi le danger même, c'est-à-dire que c'est la police. Il ne s'agit plus, effectivement, comme au temps des avant-gardes héroïques, de combattre contre, mais de combattre entre. Et là, maintenant qu'on a tous en tête et que nos corps sont pris, qu'on le veuille ou non, dans un réseau, je pense que le sens de cette expression « combattre entre », qui est une vieille expression de Sun Tzu, finalement, ça devient de plus en plus éclairant, parce que combattre contre, mais contre quoi ?
Les avant-gardes n'ont qu'un temps. Et ce qui peut leur arriver de plus heureux, c'est, au plein sens du terme, d'avoir fait leur temps. Après elle s'engagent des opérations sur un plus vaste théâtre.
Ingerum imus nocte et consumimur igni, de Guy Debord.
On n'en a que trop vu de ces troupes d'élite qui, après avoir accompli quelques vaillants exploits, sont encore là pour défiler avec leurs décorations, et puis se retournent contre la cause qu'elles avaient défendue. Il n'y a rien à craindre de semblable de celle dont l'attaque a été menée jusqu'au terme de la dissolution. Je me demande ce que certains avaient espéré de mieux. Le particulier s'use en combattant. Un projet historique ne peut certainement pas prétendre conserver une éternelle jeunesse à l'abri des coups.
Il n'y aurait pas donc à nouveau un grand récit idéologique qui pourrait se tramer et nous réarmer, disons, voilà, et réarmer la résistance à la domination qui maintenant est mondiale, qui s'est unifiée après plusieurs révolutions conservatrices de suite, donc cette espèce de nouvelle ère du capitalisme qui devait être à sa quatrième génération. Pourtant, dans cette histoire de Salmon sur le storytelling, donc, qui rejoint un peu cette idée que, en fait, le management, au sens large du terme, a créé ses propres récits, ses propres histoires, que le Pentagone a créé aussi ses mythologies. Mais est-ce que, quand même si on ne crée pas d'idéologie au sens ancien du terme, l'une des démarches ne serait pas de créer des contre-récits, justement, et y compris en passant par la fiction?
Si, ah ben si, ça serait très bien. J'aimerais beaucoup que Orwell ait des émules.
Éric Hazan.
Ça serait formidable. Si les écrivains français faisaient autre chose que... Bon, oui. Enfin, c'est un peu un lieu commun, ça aussi, de dire qu'ils regardent que leur nombril. J'en sais rien, au fond. J'en sais rien. Mais enfin, s'ils travaillaient un peu en toile de fond ce qui se passe, déjà, ça serait formidable. Comme faisaient les auteurs du roman noir français dans les années, quoi, Manchette, 70, Villard, ouais. 70-80, oui. Je crois que la construction de récits, ça serait sûrement quelque chose de très très bien, mais ça participerait de ce travail de sape dont je parlais tout à l'heure, quoi. Plus que dans celui de reconstruction du grand espoir des lendemains qui chantent. Je crois qu'il n'y a pas besoin qu'on y travaille trop pour l'instant. Ça, et le pire, la plus grande erreur, ça serait d'écrire une constitution, vraiment de se dire, voilà, on va faire ça, puis ensuite on va faire ça, et on établira ça.
Le temps des manifestes, ouais, est passé,
ça, oui, veut dire. Alors là, oui. Autant les avant-gardes, c'était quelque chose de formidable, mais autant je crois que c'est ça, le temps des manifestes, c'est fini, je crois. Et d'une certaine façon, tant mieux. Et surtout, ne reproduisons pas les formes de pensée et d'action du passé, quoi. Ça, c'est la meilleure manière de s'en prendre plein la figure.
Ça fait de nous aussi des orphelins, d'une certaine façon.
C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, oui. Oui, oui, oui. Je pense qu'il faut couper, là, avec les papas. Mais bon. Je pense que ça a peu d'inconvénients. On continuera à connaître leur histoire, hein, et à en tirer beaucoup, leurs histoires, leurs livres.
Orphelin de la révolte de Breton, orphelin de la révolte absolue d'Artaud, orphelin de l'expérience intérieure de bataille, c'est quand même de belles choses qui nous sont transmises.
C'est très beau. Pour moi, ce sont des œuvres littéraires. C'est pas plus beau... Vraiment. Ça, ce que vous venez de citer en particulier... Ces choses très françaises, pour moi, c'est pas plus beau qu'Andromaque, qui est quand même un grand chef-d'œuvre.
Septembre, post-fiction, avant-garde, suite et fin. Avec Jacques Rancière, Yannick Hennel, François Méronis, Patrick Bouvet, Éric Azan, Anne-James Chaton, Philippe Solers, Christophe Fiat, Emmanuel Rabu, Jacques Henrique, Sylvain Courtou, Bernard Heitzieck, Ramucho Mata. Avec les voix de Brian Geising, Denis Roche, Jean Baudrillard. Texte lu, Juliette Pied de Vache. Playlist, Pile, Tricky, David Lynch. Film, Injurum Imus Nocte et Consumimus Regni de Guy Debord, Paradis de Philippe Solers et Jean-Paul Fargil. Prise de son, Michel Mestre. Mixage, Julien Douminc. Après l'avant-garde, réalisation Céline Terce, par Yann Siré. Demain, second épisode, années 80, les brûlures et la survie, la révolution révolue. We'll be right back.